Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panel de Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale polar et thriller durant laquelle nous échangerons sur le coffret Alfred Hitchcock aux origines du suspense, édité par Elephant Film, comprenant The Lodger, un film de 1927, Downhill, un autre film de 1927, Le passé ne meurt jamais de 1928, L'homme qui en savait trop de 1934 et Les 39 marches de 1935. Un coffret qui vient bien en complément à un précédent coffret édité par Carlotta Film il y a peu de temps. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on va parler aujourd'hui de nouveau de Alfred Hitchcock. On reviendra aussi sur 30 minutes de sursis, un film de 65 de Sidney Pollack, disponible chez Rimini Éditions. On va évoquer deux sorties Bubble Pop, à savoir Foxies d'Adrian Lyne, un film de 1980, Dangereuse sous tout rapport, un film de 1986 de Jonathan Demme. Je vous parle un petit peu de la série britannique d'Ellen Walsh, Sous pression, une série de 2024 disponible chez Elephant Film. Et enfin, on débattra autour de The Shadow's Edge, un film de 2025 de Larry Young avec Jackie Chan, un film donc sorti chez AB Video Arcades. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Rania Griffette, Stéphane Chevalier, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer polar et thriller, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal, enquête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
On va démarrer par un film qui a bientôt 100 ans. Un film qu'Alfred Hitchcock considérait comme sa première œuvre personnelle. Pas son premier film, hein, mais en tout cas il le considérait lui comme sa première œuvre personnelle. Un film qui avait inspiré aussi un autre très bon film à John Bram, qui s'appelle aussi The Lodger. C'est un film de 1927, donc qui s'appelle donc The Lodger, dans lequel un tueur en série terrifie Londres en s'attaquant aux jeunes femmes blondes le jeudi. Les Bunting accueillent par une nuit d'épais brouillard un nouveau locataire. Il lui faut peu de temps pour s'y reprendre de leur fille, la charmante Daisy, aux cheveux d'or, donc, hein, parce que c'était le titre français. Mais il va aussi éveiller les soupçons, quoi, en particulier ceux de Joe, un détective vivant avec eux. Est-ce ce locataire, est-ce ce lodger là, qui est en fait le tueur en série qui terrifie Londres?
Le tueur en série, le film, il commence par le mettre en avant indirectement. Je trouve que The Lodger, les cheveux d'or d'Alfred Hitchcock, ont une introduction très organique. Ça a beau être un film en noir et blanc et muet de 1927, l'introduction, elle est simple. On a le meurtre, on a la signature du tueur, Avengers, qui est très drôle si vous connaissez que les comics de Marvel ou que vous connaissez Chapeau Melon et Bottes de Cuir dans la version originale. Mais c'est un titre qui sera jamais expliqué vis-à-vis du tueur même. on a le meurtre, la carte qui est laissée, ensuite on a la nouvelle qui commence à se répandre, ensuite on a les journaux qui sont publiés, et ça nous emmène en fait jusqu'à Daisy qui est en train de préparer un spectacle, qui voit un vendeur à l'extérieur qui est en train de dire qu'il y a un nouveau mort, c'est quelque chose qui l'inquiète un tout petit peu, mais sans plus, parce qu'on va se rendre compte que Daisy c'est une femme qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de sympathie, et qui même si elle, au début elle nous montrait en faisant attention, plus le film avance, plus on pourrait se dire « Ah, elle est naïve », sans doute parce que Hitchcock parfois, très souvent, des lacunes avec ses personnages féminins. Mais ce film, il incarne bien, et c'est intéressant que tu l'aies mis en avant, Jérôme, ce que Hitchcock considère comme l'un de ses premiers films, parce qu'on va retrouver des éléments qu'il retrouve très très souvent. On va retrouver quelqu'un de assez lambda, qui est ici joué par Ivor Novello, qui va porter une grande partie de son rôle, qui joue en fait ce locataire mystérieux, pas très souriant, qui est un peu... Il arrive, il porte un manteau, il est caché, il veut qu'on retire de sa chambre, qu'il loue tous les tableaux de filles aux yeux blonds parce que ça l'inquiète. Et les gens, ils se disent, bon, il est juste bizarre. Il sort en même temps qu'il y a les mœurs, ils se disent, il y a peut-être un truc qui est un peu particulier qui se passe avec lui. Et l'une des raisons pour laquelle il va être finalement mis au centre comme suspect numéro un, c'est parce que, en effet, il va s'enticher de Daisy, Daisy va s'enticher de lui. Sauf que Daisy, elle était déjà entichée de Joe, qui est l'enquêteur qui est censé faire l'enquête. Et Joe, plus le temps avance, plus il se dit, déjà c'est ma copine, évite de t'en approcher. Et quand on commence à lui dire c'est peut-être lui le tueur, il fait, y a de grandes chances que ce soit lui le tueur. Et c'est vrai que pendant tout le film, on a tous les éléments qui pointent vers lui, sauf que nous, on vit quasiment 100 ans après le film. On sait que généralement, quand tout pointe vers une personne et qu'on a affaire à quelqu'un qui est talentueux pour raconter des histoires, on se doute que c'est pas lui. Mais là, il y a le doute qui persiste, et je vous dirai pas comment ça se termine. Ce qui est super, c'est qu'on retrouve quelques éléments de folie qu'on retrouve généralement chez Hitchcock. C'est-à-dire qu'ici, à un moment, mais je laisserai Jérôme en parler un peu plus, on a un moment où le locataire, on sait pas pourquoi, il marche d'un pas lourd à l'étage. Il y a une scène où Hitchcock décide de transformer cet étage en surface transparente afin de voir ses pas. Il y a un autre moment où on a une sorte de floutage de l'image pour faire un gros plan et se concentrer sur un point en particulier. On a d'autres grands plans qui arrivent. Il y a autre chose qu'il utilise, c'est un chapitrage, en tout cas chapitrage transition, qui est assez étrange. J'arriverai pas à définir parce que je pense ne pas avoir totalement saisi le fonctionnement, mais il y a plusieurs moments où ça indique Daisy, ça revient sur Daisy, d'autres fois où ça indique un truc qui ne réapparaîtra plus. C'est un film policier, mais c'est un film policier qui est assez léger, parce que Hitchcock, il aime bien mettre de l'humour, autant de suspense et de violence. Ici, il y a peu de violence, mais il y a pas mal d'éléments humoristiques que l'on retrouve. On pourrait limite parler de comédie policière, si ce n'est que vers la fin, on a une scène que je trouve... Dans la mise en scène, ça va se léger, mais dans l'idée qui est assez violente, où on a ce suspect qui se retrouve enchaîné, quasiment lynché par une foule, ce qui est un truc qu'on retrouve dans un des remakes d'Halloween dont on avait parlé, avec une foule en fait qui va pour essayer d'attraper le tueur par elle-même. Il y a un truc par contre qui est étrange, je peux pas trop en parler parce que c'est beaucoup lié à la fin, mais je trouve que la fin, elle a un petit truc incestueux assez bizarre. Je ne sais pas si, Jérôme, tu vois ce dont je parle. Ceux qui ont vu le film, ils comprendront peut-être.
Oui, chez Hitchcock, c'est un grand pervers, notre ami Hitchcock. C'est sans doute pour ça que... pour moi, c'est le plus grand cinéaste de tous les temps. Je crois que je l'ai déjà dit 10 000 fois, à peu près, par saison. Ce film-là, il est intéressant. Bon, le chapitrage, je pense que c'est... Il a démarré comme ça, d'ailleurs, Hitchcock, pour faire des cartons pour les films muets. Au départ, il rédigeait des cartons. Je pense que c'est une manière aussi de s'amuser de la manière dont on met en scène à l'époque du muet, quoi. Mais il y a vraiment aussi ce qui est intéressant. Alors, tu l'as parlé de cet homme crucifié sur une grille, là, comme ça. C'est une figure qu'on va retrouver chez Hitchcock dans d'autres films. Et puis, il y a cet homme sacrifié, cet innocent qu'on accuse à tort. Parce qu'en fait, dans la pièce dont c'est tiré, c'est une pièce de Mary Bellox Landes. En fait, il est coupable. C'est Hitchcock qui choisit de ne pas en faire un coupable. Dans le film de John Braham, qui est parlant, qui est un film de 1943, qui est super aussi, c'est un super film. Le personnage est coupable. Et comment là, Hitchcock, lui, préfère jouer sur l'ambiguïté. Et puis, il y a effectivement cette notion de incestueuse, plus ou moins, on va dire, qui induit une grande perversion, une grande... Moi, je pense toujours qu'Hitchcock, c'est... Le grand succès d'Hitchcock, en fait, Alors, je pense qu'il s'adresse avant tout quand même à un public masculin, mais c'est vraiment le fait qu'on a l'impression, quand on regarde un film d'Hitchcock, en tout cas quand c'est ses films les plus personnels, d'être chez son psychanalyste et d'avoir une méga érection. Quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on est. Je trouve que Hitchcock et De Palma, ce sera pareil. Enfin, au summum, De Palma, il va aller plus loin. Parce que par exemple, De Palma, quand il fait Obsession, alors lui, il transgresse le tabou de l'inceste hein, dans son film. Qu'on peut trouver peut-être trop démonstratif. Ce film de De Palma, c'est pas mon préféré à moi. Mais en tout cas, là, chez Hitchcock, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir ces ravissantes blondes platines qui sont mises à mal. Alors on sait que c'était une figure récurrente de son cinéma et que son idéal féminin est une blonde platine, hein, quand même. En l'occurrence, son idéal féminin, c'est Grace Kelly, hein, qui va longtemps maudire le prince Rainier, puisque... Il aurait voulu qu'elle continue le cinéma, mais elle s'est mariée avec le prince Rainier et elle a arrêté le cinéma. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important, en fait, dans ce film-là, parce que tu as dit beaucoup de choses. Moi, tu sais que la scène du plafond de verre, j'adore cette scène parce que elle démontre le génie d'Hitchcock. C'est-à-dire, pour moi, cette scène du plafond de verre, elle nous fait entendre du son alors que c'est un film muet. C'est génial, quoi. C'est-à-dire que est-il là, n'est-il pas là, ce personnage sur lequel on déblatère ? Est-ce que le tueur est dans son logement ? Nous, on est en dessous. Plutôt que de nous faire des plans de coupe, nous le montrant dans son logement, les montrant en dessous, non. Lui, il choisit de faire ce plafond de verre, ce qui permet pour nous de constater qu'en fait... La famille de logeur entend son locataire. Et ça, c'est très, très, très fort quand même. Hein. C'est totalement inédit. Hein. On n'a jamais vu ça dans un film de cinéma muet avant. Et puis, il y a aussi, qui est personnifié là par un tisonnier, mais l'apparition du premier MacGuffin. C'est-à-dire qu'on a cet objet qui se révélera en fait complètement étranger à l'intrigue, en fait, en vérité. Mais... objet auquel on va s'attacher, qu'on va suivre, qu'on va chercher pendant un bon moment. Et ce fameux MacGuffin qui a été théorisé par Hitchcock, c'est la lettre dans les films d'espionnage, c'est le collier de perles dans les films policiers. C'est-à-dire que c'est l'objet qui est l'objet du délit quelque part, mais qui en fait n'a aucune importance pour l'intrigue. D'ailleurs, Hitchcock s'en moquait, se moquait de la véracité de ses intrigues, se moquait qu'il y ait des résolutions toujours logiques, il le dira plusieurs fois. Et là, ce tisonnier, c'est ça. On a vraiment, alors évidemment, c'est pas maîtrisé comme tout vont l'être ces films à venir, mais on est vraiment là dans la mise en place du cinéma d'Hitchcock. La même année, il fait Downhill. Downhill, toujours avec Ivor Novello, avec qui il va pas très bien s'entendre. Hein. Je crois qu'il y a eu un titre français qui s'appelle C'est la vie pour ce film. Et Hitchcock va pas aimer ce film et il va dire que c'est la faute d'Ivor Novello. Parce qu'on a souvent dit à Hitchcock qu'il faisait pas de cadeaux à ses interprètes féminines. Et bon, il va avoir un comportement inacceptable avec Tippi Hedren. Mais en fait, il faisait de cadeaux à personne. Hein. C'est-à-dire qu'il faisait pas beaucoup de cadeaux à ses acteurs au global. Et que, à moins que vous soyez des acteurs exceptionnels de la trompe de James Stewart, par exemple, mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui trouvaient grâce à ses yeux. Hein. Il était assez dur. Et en fait, c'est un film qui est parti de ses... On avait parlé de différents films aussi, qui étaient The Monk's Man, tout ça, qui est plus réussi que ce Downhill, mais qui étaient des films sortis chez Carlotta, là, où il y avait une part de mélodrame aussi, dans ces films-là. Et là, dans Downhill, c'est ça. C'est-à-dire que ça tient à la fois du mélodrame et du film à suspense, même si, comme dans The Lodger, il y a cette idée de l'innocent accusé à tort, qui est vraiment aussi une des figures récurrentes du cinéma d'Hitchcock. C'est vraiment un personnage récurrent. Et là, c'est l'histoire de Robbie, qui est l'aîné d'une famille riche, hein, les Berwick, qui est renvoyé de son université pour vol. Il accepte la sentence de son école, même s'il couvre en réalité le véritable coupable, qui est son ami Tim, pour honorer un pacte de loyauté avec lui. Et suite à cette accusation, sa famille, ses amis lui tournent le dos. Il a d'autre choix que de s'exiler pour commencer une nouvelle vie qui va devenir une descente aux enfers. C'est un film aussi sur le déclassement. Jusque où va aller le faux coupable pour tenir sa promesse. Le faux coupable, c'est un titre aussi d'un Hitchcock à venir dans quelques années. C'est un film assez dur parce qu'on... en fait, le message sous-jacent du film, qui est un message typique d'un garçon qui a reçu une éducation catholique très forte, hein, c'est qu'en fait, on est tous coupables de quelque chose. Et qu'en fait, ce personnage se déclare coupable parce qu'en fait, il a forcément un moment ou un autre de sa vie péché, il est forcément coupable de quelque chose. Donc c'est comment quelqu'un qui est innocent expie les péchés d'un autre pour ses péchés à lui. Voilà, il y a de ça dans le film. Ouais, c'est un film assez mineur. C'est pas dans le coffret. Il y a deux films un peu plus mineurs. C'est celui-là et Le passé ne meurt pas. Donc Easy Virtue, le prochain film dont je vais vous parler. Tout le reste, quand même, c'est des films qui ont vraiment forgé la légende d'Hitchcock. Alors, Le passé ne meurt pas, il vient l'année suivante, en 1928. Et là encore, on va être plus proche du mélodrame que du suspense, même si on va garder un peu le cul entre deux chaises, excusez-moi de cette trivialité, le temps de quelques séquences. Mais le film fait bien thème avec le film d'avant, hein, puisque le film débute par un carton. Virtue is its own reward, they say, but easy virtue is society's reward for a slandered reputation. En gros, est-on vertueux car on aimait des dieux, ou est-on aimé des dieux car on est vertueux? Et Hitchcock qui va trancher ni l'un ni l'autre. En fait. Voilà. Donc ça rejoint la thématique dont on parlait à l'instant. C'est l'histoire d'un divorce qui est annoncé dans la presse. Larita est accusée par son mari violent et alcoolique de la tromper avec un artiste qui se suicide face à ses médisances, donc. Et un procès s'ensuit, et aux yeux de la société, la femme adultère est condamnée, qu'importe son innocence ou sa culpabilité. L'opprobre public la suit maintenant partout, et elle décide de s'exiler en France pour construire une vie sous une nouvelle identité. Elle tombe amoureuse d'un jeune tennisman. Il y aura souvent aussi des tennismen dans le cinéma d'Hitchcock, avec qui on construit des machinations parfois. Et il est ensorcelé par les charmes de son amante, et il refuse de connaître son passé et l'épouse. Mais est-ce qu'on a vraiment le droit à un départ, même si on est innocent, quand les bonnes mœurs nous condamnent? Les deux films, donc, en fait, ont des thématiques assez proches. Il y a aussi toute une partie film de procès où il démonte la Hitchcock qui sait bien manier la caméra. Et puis surtout, le film va introduire deux éléments thématiques qu'on va retrouver chez Hitchcock. Le mauvais mariage. Hein, le mauvais mariage qui est vraiment... Soupçon et son verre de lait, Pas de printemps pour Marnie, Rebecca, Les Enchaînés, même dans Les Oiseaux, il est question de relations entre hommes et femmes, et on sent bien la mère acariâtre qui veille sur la relation que pourrait avoir son fils avec cette femme qui vient de la ville. Enfin voilà, ça, le mauvais mariage, c'est quelque chose qui va revenir souvent chez Hitchcock. Et puis, évidemment, il y a la mère possessive, oppressive. Je citais celle des oiseaux à l'instant. Il y a aussi, évidemment, on pense à la mort aux trousses, hein, mais on pense aussi à Psychose, évidemment, hein, quand on parle de mère qui a, comment dire, une mauvaise influence sur son enfant. On pense à ça. Donc, en cela, on est vraiment sur des thématiques très hitchcockiennes. Et puis, mon cher Damien, après, on arrive sur toute une flopée de classiques dans ce coffret. The Lodger était déjà un classique hitchcockien. Et on arrive à la première version, d'ailleurs. Il y a peu de gens qui le savent, mais il y a deux versions, hein, de L'homme qui en savait trop. Donc là, c'est la version de 1934. Il y a deux versions parce que Hitchcock pensait pouvoir faire mieux. Il refera une version qu'on connaît tous, Doris Day, Qu'est-ce là, voilà, tout ça, on connaît par cœur. Et là, c'est la première version, mon cher Damien. On est en 1934. Bob et Gilles Lawrence, en vacances à Saint-Moritz, sont témoins de l'assassinat de Louise Bernard, un espion français. Avant de mourir, il leur annonce qu'un meurtre va être commis à l'Albert Hall. Afin d'empêcher les Lawrence de parler, les assassins enlèvent leur fille. Désemparés, les Lawrence doivent mener leur propre enquête. Vous écoutez Culture Prohibée.
L'introduction de L'homme qui en savait trop est chargée. Tout à l'heure, je parlais d'introduction assez organique pour Cheveux d'or. Ici, on ne voit pas directement où la direction va. On commence déjà avec quelqu'un qui tient des dépliants, un peu comme s'il choisissait là où il partait en vacances. Ensuite, on peut voir quelqu'un en train de faire du ski. Et on comprend au fur et à mesure qu'on a une famille qui est dans des vacances qui sont un peu particulières, vu qu'après, on voit la mère essayer de faire... une sorte de duel de compétition de cours. Ensuite, on a un bal, on se demande où le film va jusqu'à l'assassinat. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que la famille devient vraiment le centre de l'histoire. Et c'est assez rare, en fait, de voir, en tout cas chez Hitchcock, des familles mises en avant comme protagonistes de son histoire. Alors, l'enfant est rapidement écarté, même s'il revient, parce qu'il se fait kidnapper assez vite. Et c'est plutôt... on arrive derrière dans un truc qui est un peu plus classique où c'est surtout le père qui va essayer de comprendre ce qu'il se passe, aidé un peu par la mère. Le film, l'une des forces du film, c'est Peter Lorre qui arrive et qui fait beaucoup, je trouve, à l'intérieur du film. Il arrive comme antagoniste assez tardif, c'est-à-dire que durant tout le film, on sait qu'il y a une organisation qui ont pris leur fille, mais cette organisation, elle n'a pas vraiment de visage. Ils essayent de le retrouver. On l'aperçoit une première fois, puis une deuxième fois, et puis à un moment, il devient vraiment... l'homme à abattre, vu que c'est lui qui dirige toute cette organisation secrète. Parce qu'en fait, on kidnappe leur fille pour éviter qu'ils révèlent le secret. Le secret, il est très simple, c'est qu'ils ont prévu de tuer un homme politique qui est important. On ne sait pas quel homme, on ne sait pas dans quelles circonstances. Mais s'ils révèlent le message au service secret, ils perdent tout cet avantage. Et le père, il va surtout partir en quête de sa fille, ce qui va faire qu'il va se retrouver face à lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des trucs que Hitchcock aime bien, le rendez-vous des espions, tout le truc autour de l'espionnage et de cette personne embarquée dans plus grand que. Là, pour la première fois, je ne sais pas si c'est pour la première fois, mais vu qu'il doit protéger sa fille, il y a un enjeu qui est lié au sang même du personnage. La femme se retrouvera impliquée, sera importante pour le dénouement du film à plusieurs moments. Il y a aussi ce rendez-vous d'espions très bizarre dans un lieu de culte où ils ont un endroit où ils doivent aller, c'est une sorte d'église. Très vite, les gens de l'église, ils se rendent compte que ce sont les deux seuls qui n'en font pas partie. Il y a un truc qui est très particulier et qui est remis en avant dans ce film, c'est aussi les boucles de narration. C'est-à-dire qu'on parlait de MacGuffin, c'est vrai que Hitchcock, il aime bien commencer par un truc et terminer par un truc qui est assez semblable. Et je trouve que dans L'homme qui en savait trop, ça marche beaucoup, notamment parce qu'il fait un truc assez simple, c'est qu'il introduit un truc. On se dit que c'est un truc qui ne sert à rien, mais vraiment, c'est pas un truc qui va être secoué comme un hochet au cours du film avec le personnage qui va courir après. C'est vraiment un truc qui est posé au début du film et qui, à la toute fin, ressort et fonctionne dans la narration qu'il a battue durant l'heure qui s'est écoulée.
En fait, le film, c'est une succession de petits moments d'anthologie. Mais ça fait pas forcément lien.
C'est presque une série de sketchs, entre guillemets.
C'est ça. Voilà. Et c'est aussi la limite du film. Sans doute pour ça, je pense qu'il a voulu le refaire en lui donnant une plus grande homogénéité, en lui donnant un développement mieux construit, mieux amené. On est quand même sur du très très bon cinéma. Hein, et on voit...
Si c'est une ébauche, elle est incroyable.
C'est une ébauche, puisque son remake va être exceptionnel. Hein, c'est un de ses grands classiques. Mais on sent... En fait, ce qui est fascinant avec ce cinéaste, c'est qu'à chaque film, il franchit un palier. Et là, dans le coffret, on peut bien s'en rendre compte. On est passé au parlant aussi. On est passé du muet au parlant. Et là, on va avoir le film qui est reconnu pour être son premier chef-d'œuvre. On peut discuter. Hein. Moi, je préfère sa période américaine entre nous. Voilà, mais c'est chacun ses goûts. Mais même si celui-là est excellent. Mais avec les 39 marches qui arrivent en 35, c'est l'histoire de Richard Haney, qui est un Canadien de passage à Londres. À la fin d'un spectacle de musical, il rencontre Annabelle, qui cherche à échapper à des agents secrets. Richard accepte de la cacher dans son appartement, mais elle est assassinée dans la nuit. Et donc, pour prouver son innocence, il va tenter de percer le réseau d'espionnage. Et à partir de là, va démarrer un film trépidant qui, effectivement, ne tombe pas dans l'écueil du précédent comme une enfilade de grands moments de cinéma, mais est un grand moment de cinéma constant, en fait.
Je trouve que c'est son meilleur, si on prend aussi le précédent coffret qu'on avait fait, j'avais beaucoup aimé numéro 17, mais 39 marches, comme quoi les films où Hitchcock met des numéros, c'est mes préférés, mais 39 marches, j'ai été épaté de la qualité du film. Le rôle principal, c'est Robert Donat, c'est lui qui porte une grande partie du film, c'est lui qui joue Richard Hartnett, canadien, qui se retrouve à Londres, on ne sait pas pourquoi, est-ce qu'il se retrouve à nouveau dans les trucs habituels d'Hitchcock, pris dans une histoire beaucoup plus grande que lui. Il est super, super bon. On pourrait peut-être mettre en avant qu'il a quand même un peu cherché les problèmes en ramenant une femme qu'il ne connaissait pas chez lui, alors qu'elle l'a pressé justement de le ramener chez lui. Il porte une grande partie du film. Il y a autre chose qui va être important, ça va être Madeleine Carroll qui va le rejoindre, qui porte aussi la fin du film, la bonne deuxième partie qui fait la fin du film. Ils forment un duo tous les deux à l'écran qui est incroyable, surtout que la façon dont il introduit Madeleine Carroll est très drôle, parce que Robert Donat essaye d'échapper à la police dans un train, il trouve un endroit où il y a juste elle, il l'embrasse pour pas qu'il le voie, ensuite il s'excuse en disant désolé pour l'embrassade forcée, mais en fait je suis recherché par la police, faudrait que vous m'aidez, et ça fait un peu un truc, ça m'a fait un flashback un peu de Mission Impossible l'un des derniers, où justement Tom Cruise va voir quelqu'un et fait « Faites-moi confiance, suivez-moi », et la personne refuse de le suivre. Là, c'est pareil, il fait à Madeleine « Faites-moi confiance », elle fait « Non », et elle appelle la police directement, ce qui rajoute une couche de réalisme, parce que d'habitude, dans les films, quand on dit « Faites-moi confiance », les personnes y suivent aveuglément. Je restais dans les introductions, parce que là, c'est pareil, quand le film commence, on ne sait pas du tout où il veut aller, il prend son temps pour introduire Mr. Mimory, qui est là pour faire un spectacle, on lui pose des questions, il est censé tout savoir, ça dégénère avec des coups de feu. On ne comprend pas très bien ce qu'il se passe. Et derrière, on se retrouve avec Donna qui ramène chez lui une femme. Cette femme lui dit « Je suis une espionne ». Et il est un peu surpris, mais il finit par la croire en voyant deux hommes à la porte. Et c'est une personne qui ramène chez lui. Et je n'ai jamais vu un espion, sans aucune menace, balancer aussi vite tous les secrets, quasiment tous les secrets qu'il possède. C'est, je trouve, le film, on voit le plus les MacGuffin qu'il met en place, parce que là, il en met en place 2, 3, 4 qui vont à chaque fois nous faire évoluer au cours de l'histoire. Il s'amuse beaucoup sur les plans, il ramène les ponts, parce qu'il aime beaucoup filmer des ponts, mais surtout, il y a plusieurs scènes que j'aime beaucoup. Par exemple, quand Donna essaye de s'enfuir, il monte dans le train et en fait, il y a la police qui commence à le chercher lui pour ce meurtre. Il est caché dans le train avance avec les images qui défilent, et il y a un moment, il se cache. On voit les policiers qui défilent juste derrière lui. C'est un moment où il met le train en mouvement, l'image qui est bloquée derrière, c'est incroyable. Il refait pareil quand notre malheureux arrive chez un fermier. Il commence à discuter avec la fille pour essayer qu'il l'aide. Et on a le moment où le fermier rentre. Et en fait, jusqu'à présent, Hitchcock était un peu parti sur un plan contre plan. Et au moment où le fermier rentre, en fait, la caméra suit le fermier en mouvement avec Donna et la jeune fille qui ne bouge pas, qui est peut-être du stalking. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est impressionnant. Et comme tu me l'avais dit, Jérôme, hors micro, c'est un truc que Hitchcock fait souvent. Il a une idée de génie, il la met en place une fois et derrière, il l'abandonne. Et ça, on le retrouve plus du tout dans le film. Il y a un truc qu'il garde, je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il est britannique, mais il y a encore beaucoup d'humour qui est présent, notamment un quiproquo qui débarque un peu n'importe où. Il se fait poursuivre, on le confond avec quelqu'un, on le fait monter sur une scène où il fait une conférence alors qu'il n'a rien à y faire. Est-ce qu'il y a juste de la police ? Il y a plein d'éléments comme ça. Et à la fin, l'enchaînement des révélations. Dès la deuxième partie du film, commence à avoir un enchaînement de révélations qui est passionnant, et vraiment je trouve que le film est incroyable.
Ce coffret de 5 films d'Alfred Hitchcock est disponible, hein, Alfred Hitchcock aux origines du suspense, chez Elephant Film, et on vous le conseille vivement. De toute façon, dès qu'il y a marqué Alfred Hitchcock réalisé par Alfred Hitchcock sur n'importe quel boîtier Blu-ray, DVD, il faut vous jeter dessus, hein, vous ne serez pas déçus. Écoutez Culture Prohibée, spécial polar et thriller.
va passer à un autre film maintenant, noir et blanc. On est en 65, Damien. C'est un film réalisé par Sidney Pollack, son premier film pour le cinéma. Ça s'appelle 30 minutes de sursis. Et puis, on y voit un jeune étudiant en psychologie qui est joué par Sidney Poitier, qui est extraordinaire d'ailleurs dans le film, qui s'appelle Alan, qui est bénévole dans un centre d'appel d'urgence. Même boulot que Ted Bundy quand même, hein, ça pose question. et ce jour-là, au bout du fil, il y a Inga. Inga qui est quand même jouée par l'actrice qui provoque beaucoup d'émoi chez Dustin Hoffman dans le lauréat de Mike Nichols, à savoir Anne Bancroft, voilà. Et c'est Inga qui l'appelle, elle est désespérée. Elle vient de prendre assez de cachetons pour assommer, comme on dit, une équipe complète de rugbymen.
Pour rencontrer son créateur.
Exactement, voilà. Et en fait, l'idée du film, en gros, ils ont 30 minutes quoi, avant que les médicaments fassent effet, et il faut qu'ils la retrouvent. Et voilà, Damien, et à part ça, bah, si vous voulez découvrir comment on faisait de la téléphonie avant avec des jarretières, voilà, et non pas avec de la localisation comme on le fait maintenant, de la géolocalisation. Là, on a un film qui est à la fois un mélodrame, mais aussi un formidable film à suspense.
Oui, c'est ça qui est vraiment malin dans 30 minutes de sursis de Sidney Pollack, c'est qu'en en fait, on a un endroit d'appel d'urgence quand on va mal, on a quelqu'un qui est tombé malade, et on pourrait se dire... bah, il va y avoir une urgence, mais ça ne marche pas vraiment comme un thriller. Mais la force du film, c'est qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours. Et donc, le film va utiliser des formes de flashback où on va essayer d'enquêter littéralement dans le film pour savoir deux choses. Première chose, qu'est-ce qui l'a amené à faire son geste? Deuxième chose, essayer de la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un invité un peu surprise dans le film dont on avait parlé il n'y a pas très longtemps, c'est Telly Savalas qui nous ramène sa belle tête sans cheveux au début du film. J'étais un peu triste de le voir partir, j'étais content de le voir revenir. Et il y a aussi une surprise au niveau de la musique où c'est Quincy Jones qui s'en occupe, même si elle ne m'a pas beaucoup marqué. Le film est très malin parce qu'il s'ouvre assez vite. On a Sidney Poitier qui se retrouve tout seul la nuit dans ce lieu d'urgence. Il reçoit un premier appel, c'est quelqu'un qui est bourré au l'autre bout du film qui lui parle du complot. Il reçoit un deuxième appel un peu étrange, et au fur et à mesure il comprend que bah justement c'est Anne Bancroft, cette Ingra qui vient de se suicider. Il raccroche l'autre et il essaye de la garder au téléphone. Y a des moments qui sont malins parce qu'il a besoin de débrancher son téléphone, l'avoir à l'oreille. Il peut la mettre sur haut-parleur, ce qui permet de changer l'espace, mais durant très longtemps c'est juste lui et elle, et surtout lui en fait, qui est tout seul dans la pièce. Donc on a un moment qui est assez claustrophobique. On a un peu un monologue où il essaye de porter, de la garder, faire en sorte qu'elle ne raccroche pas. Il est dans cette situation, il doit parler avec elle, continuer de la faire parler, mais aussi prévenir les urgences pour qu'il commence à se mettre en place. Et quand elle commence à se mettre en place, bah, le film trouve une nouvelle respiration. On a les flashbacks qui permettent de respirer, mais on a aussi le fait de suivre la deuxième équipe, c'est-à-dire l'équipe téléphonique et l'équipe de police qui fusionneront, qui commence à se lancer à cette poursuite pour savoir comment est-ce qu'on localise un appel. Et c'est vrai que regarder un film de cette époque-là, des années 60, et de voir comment est-ce qu'on localise les appels, c'est vraiment passionnant. Il y a un autre truc qui est surprenant, c'est de voir tous les efforts que la police met en place pour empêcher un suicide. Parce que là, on a 3-4 brigades qui sont monopolisées, qui foncent vers un aéroport pour essayer de choper un hôtel. C'est impressionnant. Ils n'essayent pas d'arrêter un crime, ils essayent ici de sauver une vie. Il y a d'autres trucs qui sont intéressants dans le film, en plus de voir comment le téléphone fonctionne. C'est qu'il y a un moment où cette femme en fait était mariée, on comprend que ça s'est mal passé avec son mari. Il y a un moment où les deux décident de sortir dans un truc qui est tout nouveau, qui s'appelle les discothèques. Et du coup, on voit aussi l'émergence des discothèques et différents pas de danse qu'il y avait à l'époque. C'est vraiment un excellent film qui a une forme assez unique, qui se développe, qui arrive à montrer un système et qui essaye de sauver, même quand la situation semble désespérée, parce que 30 minutes pour retrouver quelqu'un qui est sur le point de partir, ça crée de la tension et ça crée de l'urgence.
C'est quand même un monument de mise en scène. Hein. C'est parce que c'est un premier film. Il y a quand même des flashbacks, de la voix off, des scènes de suspense, des scènes mélodramatiques. Les acteurs sont extra. Sidney Poitier est fiévreux. Anne Bancroft est tourmentée, magnifique. Enfin, c'est vraiment. Et en même temps, il y a toute une partie vériste, presque documentaire, sur le fonctionnement des lignes téléphoniques, tout ça. C'est assez étonnant quand même. Hein. Il y a de la maîtrise dans la mise en scène. C'est. Ils étaient bons, les mecs, hein, quand même. Hein. Ils savaient tenir une caméra à l'époque. Hein, ça ne rigolait pas. Hein. Voilà, ils ne filmaient pas à 15 caméras. Hein, ils faisaient ce qu'il fallait. Moi, je vais vous parler d'un changé. Là, on était chez Rimini Édition, donc pour 30 minutes de sursis. Je vais vous parler de deux films qui viennent de sortir chez Bubble Pop. Enfin, surtout un qui m'a vraiment marqué. Le premier, c'est un film que je n'avais pas vu, qui a été sorti en DVD, qui est souvent un film vendu comme une sorte de drame mélangé à un thriller. Pour moi, c'est plus un drame quand même. Hein. Voilà, ça s'appelle Foxes. Alors, il a eu un titre français un peu ridicule, ça plane les filles. Voilà, qui n'est pas du tout raccord avec ce qui se passe dans le film. C'est le premier film d'Adrian Lyne. Oui, Adrian Lyne, 9 semaines et demie, une version de Lolita aussi. C'est intéressant d'ailleurs, ça, j'y reviendrai. Et c'est l'histoire de quatre adolescentes de San Fernando Valley qui deviennent des femmes, quoi, et qui découvrent donc, le sexe, la drogue, qui entrent en confrontation avec leurs parents, famille éclatée, famille monoparentale. Enfin, il y a tout ça. Et il y a surtout le New York. La ville américaine du début des années 80, quoi. Et captée avec un certain talent, quand même. Hein. C'est assez étonnant. Y a une musique de Giorgio Moroder aussi. Alors, on est 80 ou on n'est pas 80, hein, voilà. Mais surtout, il y a la photographie, Léon Bijoux et Michael Sarrazin. Et il y a vraiment... On capte tout d'une énergie de l'époque. C'est tout d'un... Tout de l'environnement très étrange de l'époque, presque, comment dire, même de jour, on a l'impression qu'on est, on peut pas faire un pied quelque part sans prendre le moindre risque et tout ça, c'est assez étonnant. Une esthétique très particulière parce qu'il y a le côté très léché aussi d'Adrian Lyne, mais en même temps, c'est un réalisateur qui cherche. Donc, on pense qu'il a beaucoup aimé Friedkin. Et qu'il a beaucoup aimé les premiers Friedkin. Il y a énormément de scènes caméra à l'épaule pour donner un aspect vériste, y compris des poursuites, la caméra. C'est un peu la shaky cam avant la shaky cam, en fait. Voilà. C'est assez étonnant de voir ça chez Adrian Lyne, qui est plutôt un cinéaste qui va parfois un peu jusqu'au chichiteux, quoi. Voilà, un peu côté clipesque, pas dans le bon sens du terme. Et là, en fait, son esthétique, c'est une esthétique en devenir. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et les scènes urbaines sont vraiment chouettes et les scènes nocturnes sont magnifiques. Ouais, y a des scènes qui se passent de nuit qui sont vraiment superbes. Cette bande de filles, bon, on va faire assez vite parce qu'il y a des archétypes de tous les personnages féminins. Mais disons que, en fait, si le film a gagné ses galons de films, alors culte, c'est peut-être un peu exagéré, mais de films recherchés par la communauté cinéphile, c'est tout simplement parce qu'on est en 80 et que c'est un des premiers c'est un des premiers rôles principaux tenus par Jodie Foster. On est peu de temps après le Taxi Driver. Et c'est Jodie Foster qui mène cette bande de jeunes femmes, en fait, qui fait une sorte de personnage à la fois courageux, positif, effrayé. Allez, sans ça, hein, on voit tout de suite que... D'abord, les autres actrices n'ont pas fait une carrière derrière, ont un peu été oubliées, mais elles, on voit tout de suite qu'il y a un potentiel énorme par rapport à tous les autres interprètes, du film. Et en particulier, elle a une relation particulière... Alors, avec sa mère, qui est une femme seule, qui enchaîne les déceptions en amour, qui est une femme moderne, qui est une femme combative. Et puis, elle a aussi une relation particulière avec une copine à elle, qui est jouée d'ailleurs par une chanteuse qui va être dans le groupe de rock The Runaways. The Runaways qui a inspiré un biopic avec Kirsten Stewart. Il y a de cela un petit moment déjà. Et il faut savoir que ce rôle, c'est Thierry Curry donc, qui va le prendre. À la base, il y a Rosanna Arquette, Diane Lane, Jennifer Jason Leigh et Christy McNichol qui ont été refusées pour ce rôle. Elles ont auditionné, puis c'est Thierry Curry. Alors, il faudrait que Thierry Curry, elle a ce côté destroy qui va bien au rôle, puisque là, c'est une toxicomane, en fait, hein, cette jeune femme. Et ils essayent sans cesse de la sortir de ses marasmes et tout ça, avec l'aide de quelques garçons, parfois. Et on voit, par exemple, il y a Scott Baio qui est dans les années 80... à faire une petite carrière, mais Scott Baio, surtout, qui était avec Jodie Foster dans le film d'Alan Parker qu'on a chroniqué il n'y a pas longtemps, Bugsy Malone. Voilà. Donc il se retrouve pour ce film. Et puis, je crois que c'est la première apparition de Laura Dern aussi, actrice lynchienne par excellence. On va avoir face à nous un film qui est un peu bancal,
parce que le film va sans cesse va un peu hésiter entre le drame, la comédie. En fait, c'est une sorte de chronique douce amère. Et par moments, il va y avoir des moments propres aux films policiers, virés dans les quartiers malfamés, confrontation avec des gangs, l'univers de la drogue, l'univers des commissariats, parce que cette copine qui est toxico, son père est un flic très violent. Enfin, c'est ce qu'on suppose, en tout cas, puisque est-ce qu'il veut la protéger ? Ce qui va se passer dans le film, on peut aussi se poser la question, mais c'est quand même un drôle de mec, parce qu'à un moment, ils vont retrouver, ils vont chez elle, et Jodie Foster rentre pour chercher des affaires, et la femme vit seule avec un molosse, qui, je pense, la protège de son propre mari. Voilà, donc on est à... Et ça, c'est une scène presque d'épouvante, en fait. Donc le film navigue comme ça entre différents univers, et est un film assez atypique, et il brasse des thématiques quand même, et ça c'est important de le dire, qu'on retrouvera chez Adrian Lyne jusqu'à son remake de Lolita. C'est le fait d'avoir les femmes qui mènent le bal, quoi. Voilà. Et ça c'est quelque chose en fait qu'on retrouvera dans les... Parce que qui mène le bal entre Mickey Rourke et Kim Basinger dans 9 semaines et demie, par exemple. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on retrouvera. Alors ça fait pas d'Adrian Lyne le nouveau Kubrick, mais en tout cas ça fait de ce film une curiosité à voir, et puis surtout à voir absolument, ça c'est l'autre film sorti par Bubble Pop, c'est Dangereuse sous tout rapport, Something Wild de Jonathan Demme, un film sorti en 86, alors là qui est juste, c'est la pépite, c'est le bijou, il faut le voir absolument. Charles Griggs, qui est donc interprété par Jeff Daniels, bon acteur hein, qui joue toujours beaucoup aujourd'hui, mais qu'on a un peu oublié. C'est un youpi, quoi. Vraiment, c'est un mec qui... Son boulot, c'est de se faire de la thune, quoi. Il bosse dans une banque d'investissement. Son boulot, c'est de se faire du pognon. Son trip à lui, hein, son truc qui le fait marrer, c'est d'aller dans un snack et de pas payer, de se barrer, quoi. Et voilà. On ne sait pas s'il l'a déjà fait ou s'il fait ça juste pour le fun. C'est la première fois qu'il le fait, on ne sait pas. Et là, tout à coup, il y a une nénette qui perd son manège, quoi. Elle dit, qu'est-ce que c'est que ce gars avec sa gueule de coin sauce, là, qui se la joue arnaqueur. Et elle sort, elle va le voir, et cette femme, c'est donc Mélanie Griffith. C'est Mélanie Griffith qui est donc Lulu. Et une brune avec un look assez délirant, des habits très colorés, mélangés aussi avec des styles africains, en fait, dans les fringues, dans les teintes et tout ça. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va l'enlever, littéralement. Bon, il résiste pas. En même temps, enlevé par Mélanie Griffith en 86, il n'y a pas grand monde qui résiste. On voit bien qu'elle est fantasque, qu'elle est délurée. Et puis, elle l'emmène et elle lui dit, écoute, on va faire... S'ils partent de New York, on va retourner en Pennsylvanie, dans ma ville natale, je vais te présenter ma mère, je vais te dire que t'es mon mec et tout ça. Et lui, il se laisse mener par le bout du nez. Bon, elle le chope. Le premier truc qu'elle le chope, c'est quand même, elle l'emmène dans une chambre d'hôtel, elle l'attache avec des menottes. Bon, il y trouve son compte, il n'y a pas de problème. Hein. Mais derrière, il est un peu enchaîné à elle, en fait, véritablement. Et puis, à partir de là, elle va l'emmener. C'est un peu un road movie bizarre où, en fait, elle va aller en Pennsylvanie. Ils vont faire un road movie, mais ils vont faire une boucle. Ils vont revenir au point de départ. À ce moment-là, le film est drôle. C'est une sorte de comédie étonnante. Et puis, tout à coup, quand ils sont en Pennsylvanie, elle va l'emmener à une fête d'anciens élèves. Et là, elle va tomber sur le mec qui est réellement son mari. Parce qu'elle a dit à sa mère qu'elle était remariée avec l'autre. Mais non, en fait, son vrai mari, c'est pour son tout premier rôle au cinéma, Ray Liotta, qui nous a quittés il y a quelques années, pas très vieux d'ailleurs, malheureusement, embolie pulmonaire, alcool, défonce. Voilà, malheureusement, il a eu une vie intense, notre ami Ray Liotta, acteur fantastique, qui là, est sensationnel. Et tout à coup, le film bascule dans autre chose, dans quelque chose de très noir, de très sombre, où en fait, ce personnage de Ray Liotta va se mettre à les emmener, à leur faire traverser un peu le miroir d'Alice. C'est-à-dire, là, c'est plus de la petite transgression tranquille, d'aller pas payer son resto, ou d'aller tromper sa copine avec une bombe sexuelle. Non, là, ça va être, on va les braquer, on va être violent, on va manipuler des gens, enfin, on va être horrible, on va être ignoble. Je rentre pas dans le détail, hein, pour que vous soyez, je veux pas vous divulgâcher le film. Et à partir de là, le film bascule dans autre chose. Et les personnages vont tous connaître des transformations. D'ailleurs, Lulu va devenir Audrey, le personnage de Mélanie Griffith va se mettre à devenir une sorte de sosie de Louise Brooks, Et au contact de cet homme, cette femme si délurée, si incroyable, va se mettre à se faire toute petite comme ça et à vivre dans la crainte. Alors le film est extraordinaire. Le film, voilà, avec des guest stars d'enfer. Il y a John Sayles qui fait un flic, il y a John Waters qui fait un vendeur de bagnoles d'occasion. Il y a même, parce que Jonathan Demme, à l'époque, c'est un réalisateur qui n'est pas connu. Il est connu pour un film musical, en fait. Un film avec Talking Heads qui s'appelle Stop Making Sense. Donc avec David Byrne, avec le groupe Talking Heads. D'ailleurs, il y a la maman de David Byrne qui joue dans ce film-là. Et en fait, tous ces musiciens de fou là, ils vont tous apparaître dans le film. David Byrne, Celia Cruz, on va entendre les Fine Young Cannibals, il va y avoir Ongo Bongo, il va même y avoir Sister Carol, parce qu'il y a un truc qui revient tout le temps dans le film, c'est la chanson White Thing, la chanson des Trogs, comme ça, qui est reprise à différentes sauces. Et en fait, lui, c'est un fin connaisseur de musique, Jonathan Demme, donc il va tout ce film, ce road movie, va être accompagné d'une sorte de bande musicale comme ça, c'est diégétique. Il joue avec la diégèse tout le temps, en fait. Et c'est passionnant parce que c'est aussi un portrait à travers ces morceaux choisis de ce qu'était l'Amérique et surtout de ce qu'elle proposait de mieux en matière musicale aussi, parce que c'est un fin connaisseur, le garçon. Et en fait, c'est souligné par Jean-Baptiste Auré dans les bonus de cette édition de Bubble Pop. En fait, ce qui transparaît, et on le sait, nous, parce que maintenant que bon, il n'est plus de ce monde, qu'on a pu voir quelques-uns de ses documentaires, tout ça, on sait que c'était un type ouvert sur le monde qui prônait l'universalisme. Et tout l'inverse de ce que prônent aujourd'hui les magas aux États-Unis, par exemple, qui prônaient l'universalisme et qui, d'ailleurs, son Amérique décrite est une Amérique surréaliste, c'est une Amérique métissée, c'est une Amérique tout le monde est pote dès le début du film. On a des vieux gars dans un troquet qui discutent d'un truc, ils sont de toutes les origines et tout ça, on voit bien que c'est une Amérique fantasmée. C'est son Amérique à lui, en fait, et donc ça nous donne à voir un certain melting pot et son image de l'Amérique. Et derrière tout ça, c'est à la fois une comédie, c'est à la fois un film angoissant, effrayant, c'est aussi un film un peu sulfureux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes de sexe, mais il y a des scènes de sexe quand même où les femmes prennent le pouvoir, en plus, voilà, ce qui n'est pas forcément très à la mode dans les années 80. Et en fait, ce film-là va être le premier gros succès de Jonathan Demme, va devenir quand même assez culte, et donc on est très content de le voir. Le 4K est superbe, je me suis éclaté à voir cette copie qui est très très belle, et donc c'est dangereux sous ton rapport, on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais m'arrêter là. Donc Something White, quelque chose de sauvage, et qui est donc disponible chez Bubble Pop. Je vais aller très vite aussi sur une série britannique que j'ai vraiment bien aimée, qui s'appelle Sous Pression, The Gathering, qui est sortie chez Elephant Film. Là, c'est une série de Ellen Walsh. C'est une mini-série, comme savent le faire les Britanniques. Et c'est simple, une petite crique, une fête illégale, musique électronique. Alors, tout se passe à Liverpool. Voilà, moi, ce qui m'a beaucoup plu, puisque j'adore Liverpool, j'adore cette ville. Et un drame, on noie une adolescente, Kelly, une gymnaste de haut niveau. Mais qu'est-ce qui fait qu'on noie cette adolescente à ce moment-là? Qui peut en vouloir à Kelly? Qui peut tenter de la noyer? Qui veut la tuer? Eh bien, toute la série va nous proposer de découvrir tout cela en flashback. C'est une série assez impressionnante. Les Britanniques font ça extrêmement bien, voilà. C'est-à-dire qu'on a... Mais le nombre de thématiques abordées là-dedans, c'est juste démentiel. L'influence néfaste des réseaux sociaux, le racisme, le problème de classe, les parents toxiques, parce que ça se passe aussi dans le milieu du sport, le lumpen prolétarien anglais, les défaillances des services publics et des services sociaux en Angleterre, il y a tellement de thèmes dans cette série et tout passe crème, tout passe nickel. C'est-à-dire que tout, comment on pourrait dire, c'est fluide. Voilà, ça passe tout seul. C'est en termes d'écriture, c'est assez sensationnel. Alors là, la série a eu plein de récompenses, mais vraiment. C'est une série que moi je connaissais pas. Visiblement, elle est passée par la plateforme France Télé. Et ce qui est étonnant dans cette construction, en plus, c'est que là, pour le coup, alors plastiquement, c'est très beau parce que les Anglais filment bien, mais par contre, c'est complètement dans la narration sérielle, puisque chaque épisode révèle un une couche différente du mystère qui nous est proposé à l'intro du premier. Et ce qui est fort, c'est qu'il y a une nouvelle intro à chaque épisode qui rajoute du mystère et qui nous font encore dénouer les nœuds de l'intrigue derrière. C'est à la fois un drame, c'est à la fois un thriller, c'est à la fois social et c'est vachement bien. Donc ça s'appelle Sous Pression et c'est signé Ellen Walsh. C'est disponible chez Elephant Film. Écoutez Culture Prohibée. Et on va terminer, mon cher Damien, par le retour d'une des idoles de mon enfance. Et oui, même s'il a un peu mal tourné là, politiquement ces dernières années, hein, le rapprochement, le fait que la rétrocession de Hong Kong à la Chine n'a pas fait que du bien, je veux bien sûr parler de notre ami à tous. Jackie Chan, le roi de la cascade, l'homme qui nous a tant enchanté et qui revient enfin au cinéma d'action dans un film qui vaut le coup d'être vu, hein, qui sort chez AB Vidéo Arcades, là. C'est The Shadow's Age, un film de Larry Yangzi, un film de 2025 qui est sorti au cinéma d'ailleurs, et qui est, mon cher Damien, une histoire assez dingue avec un mystérieux mafieux qui a 7 fils adoptifs, qui n'arrête pas de ridiculiser la police en piratant des systèmes de surveillance ultra modernes dans le but de récupérer, alors ça se passe à Macao, hein, une fortune en crypto-monnaie. La police, elle est devenue impuissante et quand la technologie ne peut plus rien. Mais qu'est-ce qu'on fait quand la technologie ne peut plus rien ? Eh bien, non, on n'appelle pas Tom Cruise, hein, parce que je sais, c'est à peu près le même pitch que les derniers Missions Impossibles. Non, on fait appel à un ancien expert qui va s'associer à une jeune policière et qui va, comment dire, lui, grâce à son savoir à l'ancienne, pouvoir monter une équipe d'infiltration et aller déjouer tous les plans machiavéliques d'un autre vieux, qui est de l'autre côté aussi dans ce film, parce qu'il n'y a pas que Jackie Chan, il y a Tony Leung Ka-Fai qu'on retrouve aussi, cet acteur, super acteur, et qui a pris un coup de vieux par contre Tony Leung, le beau gosse là, il reste beau gosse mais il a vieilli, et ben, à partir de là, les deux vieux ils vont remontrer aux petits jeunes, et ma foi, mon cher Damien, c'est une excellente surprise, ça fait très très longtemps, malgré ses défauts, hein, le film n'est pas sans défaut, mais qu'on n'avait pas vu, alors déjà une production chinoise d'action de ce niveau, et puis un Jackie Chan aussi top, quoi.
The Shadow Edge de Larry Yang montre très vite tout ce qu'il peut faire. Hein. L'introduction m'a fait peur parce que ça commence vraiment sur des chapeaux de roue à vive allure. En 20 minutes, ils essayent de tout mettre en place. En 20 minutes, on a en même pas 5 minutes, je crois qu'on a la première tentative de braquage, le piratage du système d'IA de sécurité, la confrontation entre la police qui a une IA développée de système de surveillance qui s'appelle Spice Girl, qui décide ou non de l'utiliser. Là, c'est juste les 5 premières minutes d'une scène, mais on enchaîne direct sur la scène juste après où c'est un cambriolage, où ils rentrent dans un endroit, ils ressortent, ils ont très peu de minutes, course-poursuite avec la police, arriver dans un deuxième endroit, changement de déguisement toutes les minutes pour échapper à la police, au système de surveillance. Le début du film va très 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 vite. Au départ, j'avais peur qu'il y ait juste une surenchère sur surenchère sur surenchère, mais au bout d'un moment, ils commencent à se calmer parce qu'on a les polices qui se rendent compte qu'ils ont été totalement inefficaces, et c'est assez particulier de voir, de se dire que c'est un film qui va tirer un peu dans les pattes de la police au fur et à mesure que le récit avance, mais elle va pas que faire ça, elle va créer en effet, comme tu l'as dit Jérôme, étrangement une confrontation entre la jeunesse et le vieux loup qui sait plein de choses, parce que cette équipe de braqueurs est en effet menée par Tony Young, qui a appelé The Shadow, ce cambrioleur qui apparaît, disparaît sans jamais être retrouvé. Face à lui, pour pister quelqu'un qu'on ne peut pas pister grâce aux drones, aux caméras de surveillance omniprésence et à la reconnaissance faciale, parce que c'est quand même fort, hein. En Chine, ils ont de la reconnaissance facial qui est capable de savoir si vous êtes déguisé pour vous reconnaître. Là, ça fonctionne pas. Du coup, on a besoin de Jackie Chan qui est capable de pister n'importe qui pour le retrouver. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, si d'un côté on a les méchants qui ont un vieux sage et des jeunes, d'autre côté il faut un vieux sage et un jeune. Ici, ça va être Zhang Zhifeng, en espérant ne pas trop avoir écorché son nom, qui va jouer la jeunesse, qui va essayer de prendre le relais. Sauf que le film, il se concentre vraiment sur Jackie Chan et Tony Leung, qui sont un peu au centre du film. Alors, tu l'as très bien dit, Jérôme, Niveau action, on est très servi. Le début, il me fait peur, mais plus ça avance, plus en fait le film arrive à s'équilibrer. En fait, on dirait un actionneur des années 80, mais en beaucoup plus fluide et en beaucoup plus rapide. Plus l'histoire avance, plus on a des retournements de situation, des oppositions entre la jeunesse, la vieillesse, entre la police et la technologie, entre la force et la force. Parce que quand les mercenaires attaquent la police, il y a juste la police pour les contre-attaquer. Et le truc qui est bizarre, c'est qu'au final, le développement des personnages, en tout cas de la jeune policière, ne se fait que dans les dernières minutes du film. Parce que durant tout le film, la confrontation se fait vraiment entre Jackie Chan et les méchants. Et c'est quand, une fois qu'il est un peu mis à terre, que vraiment on a le développement de ce personnage féminin qui va véritablement jusqu'au bout de ce qu'elle est. Parce qu'au départ, on nous montre qu'elle est capable de se battre contre des hommes, mais elle se bat pas vraiment. Elle arrive à les immobiliser. Ensuite, elle se retrouve dans un combat de rue où elle se fait battre. Elle se retrouve dans un autre combat plus tard où elle se fait battre. Il faut attendre la toute fin où finalement elle se bat pas pour gagner. Donc c'est un film qui danse un peu sur deux pieds, mais qui, niveau action, ne nous déçoit jamais.
Ah, c'est un film qui démarre comme un peu les derniers, le remake de Point Break, on retrouve ça.
Tu veux marquer le coup trop vite.
Insaisissable aussi, tout ça. Bah, je pense que les Chinois, ils veulent dire aux Américains, eh, les gaillards, on peut faire pareil, hein. Y a pas de souci. On est là, on sait faire du cinéma d'action. On est un peu chez Chouark avec son Time on Tide. Voilà,
Et drôle, vu que Tony Leung a beaucoup joué pour Tsui-Hark, donc on retrouve des bases de ça. Et le truc qui convient, c'est bien un film de Jackie Chan, c'est qu'à la fin, dans le générique, on a les bloopers. Ouais, on a toutes les cascades ratées.
Et tous les moments drôles. Alors après, alors oui, il y a des trucs un peu tirés par les cheveux, parce qu'on rajoute du mélo sur du mélo, ça c'est typique cinéma HK, cinéma asiatique, chinois, où on a, parce qu'effectivement cette jeune femme, c'est la fille de son ancien coéquipier,
qui est mort à cause de lui,
dont il porte en tout cas la culpabilité. Mais au final, moi ce que je retiens, c'est que le film est quand même, il est trop long, et voilà, il multiplie les envolées narratives, parfois un peu inutilement. Mais par contre, je retiens plusieurs choses. Déjà, Macao, j'avais jamais vu Macao filmé comme ça. Il y a même des moments où c'est une petite ville, alors que c'est mégalopole.
Il y a un côté Las Vegas chinois.
Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai jamais vu toute la dernière partie là où ils poursuivent Tony Leung et tout. On a presque l'impression d'être dans une sorte de Las Vegas ou de copie de station balnéaire occidentale. C'est assez chouette. Et puis. Ah, puis le combat dans le resto, là, il est monumental.
Le dernier combat dans le resto, il y a beaucoup de tension. Et c'est drôle parce que c'est le truc où ils font moins de salto, vu que c'est surtout Tony Leung contre Jackie Chan. Mais la proximité, la dangerosité des armes, c'est...
Ah, ils sont bons encore, les anciens. Et puis, il y a une scène super sur un marché aussi. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, il y a... moi, ce que j'adore, c'est... En fait, c'est pas une scène d'action, c'est la scène du repas. La scène du repas qui est d'une... Alors, c'est marrant parce que le réalisateur, par moments, il a des tics assez affreux, là, de presque clipesque, qui est pas très beau quand même, hein, surtout dans le début. On a peur. Après, on s'y fait, en fait, au bout d'un moment, à ce type de mise en scène, où le mec, il a vu beaucoup de films de Michael Bay, je crois aussi. Et là, à un moment, on a cette scène qui est presque hitchcockienne. Cette scène de repas, où il dit avoir été un grand cuisinier, l'autre il dit qu'il connaît bien la cuisine. Et en fait, c'est Jackie Chan contre Tony Leung. Et ce premier repas, il prend place dans la cuisine.
Oui, parce qu'en fait, ce qui manque comme information aux auditeurs, c'est que cet appartement... Oui, mais en fait, il n'est pas le leur et Tony Leung est très paranoïaque. Et il pense que justement, du coup, quand il arrive dans l'appartement, il commence à en faire le tour, vérifier qu'il n'y a pas de micro. Il arrive dans la cuisine et Jackie Chan dit que c'est un grand chef cuisinier. Et quand on regarde le couteau, il voit juste trois couteaux. Il fait « Ah ouais, t'es vraiment un chef cuisinier » jusqu'à ce qu'il étale les couteaux. Et chacun se fait face pour essayer, Jackie Chan, de prouver que véritablement, c'est bien un père avec un petit père avec sa fille qui vit dans sa part. Et Tony Leung, très suspicieux, qui ne veut pas se faire attraper, parce que jusqu'à présent, il ne s'est jamais fait attraper. Et l'enjeu pour lui, c'est qu'en effet, il a vieilli et que toute la technologie est un peu compliquée pour lui. Un peu pareil pour Jackie Chan, mais lui qui s'en sort beaucoup mieux, vu que
c'est Jackie Chan.
Exactement.
Enfin, il s'en sort beaucoup mieux, pas vraiment, puisqu'il va y avoir forcément une suite, hein, de ce qu'on voit à la fin. Bon, après, j'arrêterai là, parce qu'il y a la scène de l'ascenseur. Il y a plein de super scènes, en fait, dans le film. Ça s'appelle The Shadow Hedge de donc Larry Young, et c'est avec Jackie Chan et Tony Leung, Carrie Fai. Donc voilà, vous avez compris, on aime beaucoup. En tout cas, on est bien content. C'est le meilleur Jackie Chan depuis New Police Story. Donc on est content de revoir notre ami Jackie Chan à un tel niveau. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et Radio Graphite, graphite.net.
Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, une émission animée avec Damien Demet, dit La Bête Noire de Compiègne, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.